La matinale de 19h. Le magazine de société de Radio Campus Paris. L'actu engagée.
Un petit village antifasciste vers la Sorbonne.
La culture décalée.
J'ai découvert ses albums et j'ai pété une pile.
Le sujet étudiant.
Pour moi, la démocratie étudiante, elle se fait dans les AG, dans les mobilisations.
Et ce qui se passe en Ile-de-France.
Le but, c'était en fait de préserver les terres agricoles autour de la capitale.
Du lundi au jeudi, de 19h à 20h, sur Internet, sur le DAB+, et sur le 93.9 FM.
Bonne année 2026! Je vous souhaite le meilleur pour cette année. D'ailleurs, pour bien démarrer l'année, j'ai une excellente nouvelle pour vous. Oui, nous avons de la chance, il y a du soleil, un ciel dégagé et de la neige. Mais j'ai aussi pour vous de belles informations. Je dirais même un magazine où vous pouvez lire et relire des histoires qui font du bien. Je dis beaucoup au micro de Radio Campus Paris que l'une de mes sources d'informations principales est le Courrier International. Eh bien, le Courrier a publié un hors-série « Les plus beaux récits de 2025 ». Vous aimez voyager ? Cette hors-série vous guide en Asie, au Népal, en Irak et au Pakistan, mais aussi en Afrique, au Congo, en Algérie ou encore au Malawi, ou bien en Europe, en Bretagne ou en Essonne, à Évry. Une soixantaine de pages qui fait du bien, qui nous fait découvrir des jeux comme le Maybase, c'est un défi pour moi de le dire, un jeu de bluff, ça se passe en Irak, mais également un bureau de poste, et ça se passe au Japon, qui reçoit des lettres pour des personnes que nous avons aimées et qui nous manquent. Ou encore une maison de retraite, et ça, Cocorico, ça se passe en France, en Bretagne, où l'humain est vraiment au centre des préoccupations. Vous cherchez de l'oxygène ? Les plus beaux récits de 2025, le hors-série du Courrier International. Bonne lecture ! Au programme de votre matinale de 19h ce soir, deux chroniques, l'une de Noémie, l'autre de Francesca. Dans le Zoom, je reçois le skipper suisse qui survole l'Atlantique, Mathis Bourgnon. Mais d'abord, je suis avec l'historien et l'auteur Yves Beaumati pour échanger sur la situation actuelle en Iran. Votre matinale de 19h sur Radio Campus Paris, sur le DAB+, sur radiocampusparis.org et sur le 93.9 FM en Ile-de-France.
La matinale de 19h, 93.9 FM.
Bonsoir Yves Beaumati.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous dans le studio direct de Radio Campus Paris pour faire un point très complet, on va dire, sur la situation en Iran. Comment on le décrirait là actuellement le 6 janvier 2026 ?
Oh, c'est assez difficile de le décrire en trois mots, mais enfin, c'est une crise de régime, une crise également par rapport à une économie de prédation, et c'est aussi un ensemble de manifestations, d'ailleurs, qui concernent au premier chef les étudiants, aussi bien que les femmes, que les gens plus âgés, que les gens du bazar, que les commerçants. Enfin bref, c'est une crise générale qui est assez inusité depuis que le régime islamique a été mis en place en 1979. Donc c'est une situation qu'on croit s'être répétée, mais qui en fait me semble là particulièrement novatrice par rapport à tous ces ferments qui font que tout le pays s'agite en ce moment, et pas simplement la capitale.
Pourquoi une crise de régime exactement ?
Eh bien, parce que l'économie est en quelque sorte capturée par une oligarchie politico-sécuritaire et qui a remplacé le travail, le mérite par la corruption, par la rente d'une certaine classe de la population qui s'est accaparé les marchés, qui a muselé les oppositions, qui a rendu les libertés individuelles extrêmement précaires, qui a essayé justement de survivre à force de répression. Et quand un régime substitue au droit la répression, alors je crois qu'après 45 ans, on peut s'imaginer que les bouchons n'ont pas de champagne, on ne boit pas de vin dans les pays islamiques, mais en tout cas...
Ouais,
c'est vrai, en surface. C'est vrai que dans les caves, on fait jusqu'à de la vodka, mais en Iran. Mais il n'empêche qu'à un moment, bien, la marmite finit par exploser. Donc c'est un petit peu ce qui peut se passer aujourd'hui, mais ça n'est pas sûr, parce qu'en Iran, tout est possible, tout est imprévisible, et depuis 4000 ans, l'Iran l'a prouvé.
Donc, selon vous, il peut y avoir encore des retournements dans les mois à venir?
Alors, on ne sait pas. Ça peut tomber demain, ça peut tomber dans un mois, ça peut tomber pour Nowruz, qui est le nouvel an iranien, vers le 21 mars, qui est l'arrivée des forces nouvelles. Et là, les manifestations, les manifestants l'expriment comme quelque chose qui doit changer en Iran. Donc, mais en même temps, on a vu que le gouvernement a pu, à force de répression, en tirant à balles réelles sur la foule, il a tué déjà pas mal de gens durant ces 5-6 jours, enfin ces quelques jours de manifestation. Donc on ne sait pas ce qui peut se passer, parce qu'il ne faut pas oublier que le régime est soutenu par ce qu'on appelle les Pasdaran, les gardiens de la révolution, qui étaient, aux dernières nouvelles, entre 140 000 et 160 000, plus les Basidji, qui sont des jeunes enrôlés un petit peu comme à une époque, les jeunesses pendant la guerre, enfin je n'insiste pas là-dessus, mais donc il y a une grande possibilité de répression, mais il y a aussi une grande force d'un peuple qui a faim, qui n'a plus d'eau, qui n'arrive pas à accéder à ce que sa culture et son éducation pourraient lui réserver. Donc là, il y a tous les fervents d'une évolution, en tout cas, sinon d'une révolution. Enfin, moi, je suis très, très prudent sur ces choses-là en tant qu'historien. Mais tout est possible, dont un renversement du régime. Ce que, en Occident, nous attendons, d'ailleurs. Hein. Mais rien n'est encore acquis, loin de là.
Quel est l'état économique? Comment se porte, on va dire, le portefeuille des classes populaires, des classes moyennes, des classes aisées?
Eh bien, le portefeuille, je crois qu'on ne peut pas trop en parler pour les classes populaires. Vous savez que Téhéran, il y a 10 millions d'habitants. Donc, les riches, c'est sur la montagne, si j'ose dire, qui borde Téhéran. Et les classes moyennes sont sur le bas, parce qu'en été, il fait très chaud et il vaut mieux avoir la fraîcheur de la montagne. Donc, les classes moyennes s'appauvrissent, parce que justement, elles n'arrivent pas à accéder donc à ce que leur culture donc pourrait leur réserver. Mais les classes favorisées, c'est-à-dire les classes proches du régime, vivent très bien. D'ailleurs, le modèle, c'est quand même les Émirats arabes, avec une grande liberté de mœurs. Enfin bref, tout ce que...
Ça concerne combien de personnes de la population, la part de la population ?
Ça, c'est très difficile à dire. Je crois que c'est plusieurs centaines de milliers, mais il n'y a pas de chiffrage. Hein. Ce qui est sûr, c'est que les gens les plus proches du régime peuvent acheter jusqu'au marché public. Et si vous avez le marché des bâtiments, par exemple, des nouveaux bâtiments ou d'un hôpital, eh bien, il faut donner bien sûr un énorme bakchich hein, aux gens qui distribuent ces autorisations. Mais à partir de là, vous pouvez faire beaucoup d'argent. Et c'est ce qui se passe à Téhéran. Il y a eu des livres qui sont parus là-dessus récemment, où la classe vraiment riche vit avec tout ce que vous pouvez imaginer, des cocktails... sont bu dans des soirées où les femmes sont extrêmement bien habillées, évidemment sans voile, où on boit de l'alcool, où on danse entre hommes et femmes, ce qui est interdit. Et voilà, donc...
Des salles de ambiance.
Oui, c'est quand même un peuple qui est très, très divisé par rapport à sa façon de vivre. Vous avez la théocratie qui impose à la majorité une façon de se conduire. Et puis, les gens très riches, ben, ils font attention, bien entendu, en payant les gens qui sont censés garder les mœurs, hein, mais qui font un peu ce qu'ils veulent.
Et les classes moyennes et les classes populaires, donc, quel est leur état? Et puis, c'est principalement eux qui font partie de ce mouvement?
Eh bien, oui. En ce moment, ils n'en peuvent plus parce qu'il y a une inflation absolument terrible en Iran. Pour vous dire, quelques informations chiffrées, en 1979, pour $1, parce que, hélas, le monde entier fonctionne aussi avec la référence au dollar, pour $1, il fallait 70 Rial. Aujourd'hui, j'ai regardé là tout à l'heure, il faut...
C'est un million ?
42 000 oui. Rials.
42 000.
Alors vous imaginez l'inflation énorme, les salaires ne suivent pas, donc on a du mal non pas à finir les mois, mais à les commencer dans certains milieux. Donc là, il y a une révolte au départ qu'on a voulu nommer une révolte de la faim, Mais ça n'est pas qu'une révolte de la faim, c'est une révolte qui est en train actuellement de s'étendre à toutes les revendications. Et comme par hasard, les bazaris, qui sont les commerçants du bazar, qui ont aidé à la mise en place de la révolution islamique, eh bien, sont en train de se retourner contre le régime. Et quand les bazaris s'en mêlent...
Pourquoi aussi tard ?
Pardon ?
Pourquoi aussi tard ? Pourquoi se retourner aussi tard ?
Parce que la répression est très forte, parce qu'ils avaient intérêt à ne pas se retourner, parce qu'eux-mêmes ont profité des choses. Et puis peut-être que maintenant, comme l'inflation ne leur permet plus de retomber sur leurs pieds, y a un manque à gagner flagrant. Et tant qu'on gagne de l'argent, il n'y a pas de problème en Iran. Mais quand on n'y arrive plus, alors là, on proteste. Je suis peut-être un peu schématique là-dessus, mais les bazaris sont quand même un des indicateurs qui permet de voir que les choses ont de grandes chances aujourd'hui, je dis bien chances, de changer.
À quel point l'économie iranienne fonctionne à vase clos ? On a en tête le fait que l'Iran est sous embargo. Oui. À quel point ça impacte l'inflation ?
Alors, l'Iran est sous embargo, c'est évident. L'inflation est due aussi à cet embargo, certes, mais les classes favorisées réussissent à détourner cet embargo en vendant à la Chine, en vendant bien entendu à la Russie. On a vu pendant la guerre contre l'Ukraine que les drones venaient de la Russie. Également en travaillant avec le Qatar, puisque le Qatar a besoin des ressources de gaz de l'Iran dans le sud, vers le golfe Persique.
Donc l'économie continue à fonctionner penser en Occident.
Et puis, oui, elle continue. Et le pétrole reste encore quelque chose quand même de très très monnayable par des sociétés écrans. Voyez, on n'a pas l'impression que c'est du pétrole iranien, parce qu'il est sous embargo, mais on arrive quand même à le faire moins qu'avant, parce que sur le plan du pétrole, je n'ai plus tellement le chiffre en tête, mais les choses se sont écroulées aussi dans la production par rapport à ce qui existait sous les Pahlavis.
Et là, le fait que le pétrole soit, le prix du baril soit plat, soit plutôt bas, ça a un impact aujourd'hui sur l'économie de l'Iran ?
Bien entendu, puisque l'Iran, sa grande ressource, c'est quand même le pétrole. Et plus il baisse, plus évidemment les gens se trouvent démunis, parce que les investissements doivent être continus par rapport à l'exportation du pétrole et la production même. Donc tout cela fait que il y a un grand mouvement de protestation contre cet État qui n'a fait que constater une crise environnementale, une pollution énorme, le problème de l'eau donc est absolument général dans tout le pays parce que on n'a pas entretenu les barrages
à cause de sous-investissements. Ouais.
Des sous-investissements et on a supprimé aussi tous les problèmes d'irrigation, tout ce qui avait été fait auparavant. Voilà, l'électricité manque. Les médicaments manquent également. En plus, la jeunesse se tourne beaucoup vers la drogue, qui est en flux constant dans les grandes villes, en tout cas. Donc, tout cela fait que, y a un problème de saturation et qu'on n'en peut plus de cette économie de prédation, en fait.
C'est disparate. Est-ce qu'il y a plein de revendications en simultané ou il y a quelque chose qui ressort ?
Alors au début, d'ailleurs on l'a bien orchestré dans l'Occident, c'était une révolution par rapport au voile des femmes. Alors aujourd'hui, c'est plus du tout ça, ceux qui disent que
c'est que le problème... Au début, c'était à quel moment ?
Au début, c'était lorsque Mahsa Jina Amini
a été... 2022.
Oui, c'est ça. A été tuée à l'automne 2022. Donc, en effet, il y a eu une déferlante là, par rapport aux femmes qui voulaient être libérées de ce carcan, en fait, de ce voile. Donc, beaucoup ont pris de grandes libertés par rapport à cela. Elles ont été d'ailleurs punies pour de nombreuses femmes. Et ceci a dépassé le problème féminin pour être maintenant non plus femme, vie, liberté, mais femme, homme, vie et liberté. Car je crois que c'est plutôt ça, liberté de mœurs, liberté d'entreprendre, liberté de s'enrichir aussi, parce que c'est très important. ils voient les pays autour d'eux qui continuent à vivre.
Et une classe aisée aussi qui s'enrichit.
Qui n'arrête pas de s'enrichir.
Et finalement, avec une société clivée. Nous sommes avec l'historien et l'auteur Yves Beaumati pour échanger sur la situation iranienne. Juste avant, nous allons faire une pause pour arriver à la deuxième partie avec une artiste iranienne. Nous écoutons Parastu Ahmadi avec As to Never Stand et c'est sur Radio Campus Paris.
مشک دلم بند تو مانده عشق گلو بند تو مانده خوش که هوادار تو هستم عاشق دیدار تو هستم بی تو نشستم غم دریاست موج زده زخمی ساحل گم شده در حجم نبودت منتظر ماه مقابل نوشتن خود رویاست شادی یک شوق نهانیست سایش پیراهن و قلبست چشم تو یک شعر جهانیست از تو نوشتن خود رویاست
To Neverstein de Parastu Ahmadi sur Radio Campus Paris. Il est 19h20 et vous écoutez la matinale de 19h.
La matinale de 19h. Le magazine de société de Radio Campus Paris.
Toujours avec l'historien et auteur Yves Beaumati au sujet de la situation en Iran. On disait que l'une des bases, ça a été 2022, donc avec le meurtre de Mahsa Amini. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment a été l'évolution depuis 2022?
L'évolution, ça a été de plus en plus de répression, de plus en plus de rappel à la règle islamique, pour les femmes, le voile, évidemment, et puis pour la jeunesse, de plus en plus de, comment dire, d'incitation à dissimuler ce qu'elles pensent. Alors, il y a une manière de dissimuler en Iran qu'on appelle le ta'aruf, qui est cette politesse extraordinaire qui permet justement à la population iranienne et particulièrement aux jeunes, de paraître acquiescer à tout. Et puis de faire tout de façon détournée, de façon cachée. C'est devenu quasiment un sport en Iran. Et ça leur permet justement d'écouter les informations sur Internet par la VPN, de pouvoir essayer d'être un peu plus libre, de se cacher. Vous savez qu'en Iran, un homme ne peut pas aller avec une femme dans la rue si ce n'est pas sa sœur ou son épouse. Donc, s'ils se font prendre, ils peuvent être bastonnés. Vous voyez où nous sommes, c'est pas du tout pour rire ceci. Hein. Donc, la répression est devenue quelque chose de systématique. Là, actuellement, la répression est aussi extrêmement forte. Par exemple, dans le Kurdistan, je notais là aujourd'hui, dans une petite ville qui s'appelle Malekshahi, le pays kurde, c'est là d'où est partie la révolte de Jina Amini. Les passes d'Aran, c'est-à-dire les gardiens de la révolution, ont ouvert le feu sur la population. Alors, on dit en Occident que depuis quelque temps, il y a une douzaine de morts, mais c'est véritablement des chiffres.
Mais viennent d'où ces chiffres ?
Ben justement, c'est des chiffres. On nous dit 8, après on nous dit 12. Et dans mes sources, on me dit beaucoup plus. Parce qu'il y a peut-être une quarantaine de morts officiellement, mais il y a tous les gens qu'on est en train de torturer et d'emprisonner. Et c'est par milliers qu'on réemprisonne les gens. Et voilà. Donc, ça, c'est une façon qu'a le gouvernement d'essayer de sauver les meubles. En attendant, peut-être. Alors, on a dit au Time, il y avait une nouvelle hier que le guide suprême, Ali Khamenei, préparait ses bagages pour partir en Russie. Bon, nous allons le voir, hein, ça, je n'en sais pas plus par rapport à cela. On a dit aussi qu'il allait mourir, il a un cancer, ça fait 20 ans qu'on dit ça. Il finira par disparaître, de toute façon. Mais il n'empêche qu'actuellement, il y a tout un mouvement qui exprime sa lassitude de ce régime théocratique, autoritaire, et donc, comme je disais au début, prédateur.
Et il faut et savoir... un mouvement jeune.
Oui, jeune. Et puis surtout, ils ont appris que les Pasdaran et tous ceux qui sont proches du régime ont envoyé par avion entier des réserves d'or au Venezuela. Donc ça, c'est aussi très important, car ils préparent de longue date par des sociétés offshore. Ils contrôlent aujourd'hui près de 60% de l'économie, 30% directement, et le reste par des sociétés écrans, etc. Donc tous ces pas d'Aran, certains sentent quand même que le torchon est en train de vraiment brûler, même s'il ne brûle pas cette fois-ci, ça ne pourra pas être éternel, cette façon d'opprimer le peuple. Parce que l'oppression appelle l'oppression, c'est la façon que le régime a de se maintenir.
Comment cette répression tient révolte après révolte? On parlait de 2022, il y a eu 2019, il y a eu des révoltes au fur et à mesure. On a fait un état des lieux, il manque quasiment de tout dans cette population. Comment ce régime tient encore?
Alors, ils n'ont pas toujours manqué de tout. Hein. Moi, je me souviens, quand je suis allé en Iran, il y a de nombreuses années, bon, j'ai pas intérêt à y aller en ce moment, bien sûr, hein. Mais les gens vivaient, il y avait des voitures qui venaient du Japon, on pouvait manger des choux à la crème, il y avait beaucoup de choses possibles en Iran, et puis on détournait à peu près tout. Aujourd'hui, les choses sont beaucoup plus difficiles à cause de cette inflation. Hein. Voilà. Mais comment les gens vivent, c'est le système D, c'est là aussi ce que les jeunes détournent, les gens plus âgés essaient aussi de le détourner. C'est une économie de pénurie où on fait comme on peut, en fait. Hein.
Depuis 2022, donc avec justement ce mouvement de répression donc lié on va dire, au fait que Mahsa Amini n'avait pas porté son voile, est-ce que les femmes arrivent quand même, à travers ce qu'il s'est passé en 2022, aujourd'hui en 2026, à se libérer, à pouvoir davantage s'affirmer ?
Alors elles l'essaient en tout cas, à leurs risques et périls, parce que certaines sont attrapées par la police des mœurs, hein, ce sont des femmes qui... On a vu des images absolument terribles. Oui, les femmes essaient de se libérer, le problème du voile... Bon, là il y avait une loi qui devait passer à la fin de l'année dernière, elle a été reportée pour lutter contre ces femmes qui enfreignaient la moralité islamique. Donc, ça montre aussi que le gouvernement, il se dit, bon, on va lâcher un peu sur le voile et pour essayer de garder quand même le contrôle. Mais le voile n'étant plus vraiment la première revendication, alors là, il y a vraiment une grande une autre revendication qui est en train de naître. Et je lisais un rapport d'un institut qui est l'Institut Gamaan, qui est un groupe d'analyse et de mesures des attitudes en Iran, qui en juillet disait que la jeunesse aspire à une célébration des valeurs terrestres en opposition aux valeurs chiites. Et les valeurs chiites, c'est la valeur du deuil, du sacrifice, du martyr et l'espérance en l'au-delà. Donc les gens, ils veulent du concret maintenant. On leur a promis que des choses qu'ils auraient s'ils étaient bien obéissants, eh bien, ce n'est plus suffisant.
Ils ne veulent plus de régime théologique.
Je pense qu'ils ils voudraient revenir à une sorte de constitution, de laïcité, où la religion ne dicte plus la politique. Or, la religion a pris le pouvoir et a appliqué une politique religieuse où le guide suprême, selon la loi de ce qu'on appelle le gouvernement du docte, peut tout faire. Et ça, c'est une sorte de pouvoir absolu que jamais l'Iran, même sous les Pahlavis, n'avait connu.
Comment la jeunesse s'organise ?
La jeunesse, elle s'organise, comme je vous l'ai dit, en détournant les choses. Et là, dans les universités...
Mais justement, pour faire avancer les choses et pour pouvoir exprimer leur voix, comment est-ce qu'ils s'organisent au quotidien ? Donc effectivement, il y a ces manifestations, il y a ces révoltes. Mais pour faire avancer les choses et pour pouvoir exprimer leur voix ?
Eh bien, ils s'organisent...
Qu'ils soient entendus, finalement.
Ils sont entendus en Iran en ce moment, de toute façon, parce que, vous savez, 60% des étudiants en Iran sont des étudiantes. Donc, vous avez là, oui. on mêle le problème identitaire, le problème de la carrière, au problème du sexe aussi. Bon, bien sûr qu'ils se font entendre. Le problème, c'est que la plupart des grands leaders qui se faisaient entendre sont en prison, ont été torturés, ont été... pendu. Vous savez que l'an dernier, il y a eu plus de 1000 morts politiques en Iran. Et en Occident, on le dit, mais on a l'impression que ça fait partie de l'Iran. Non, 1000 morts avec des tortures, avec des choses inimaginables qui n'ont... Enfin, toutes les associations des droits de l'homme le disent. Hein. Donc, ils vivent dans la peur, mais l'Iran et les Iraniens, c'est un peuple très, très, très résilient qui, malgré ce poids religieux, a fini par rejeter ce qu'il infère pour demander vraiment un retour. Alors certains demandent un retour au Pahlavi. Ça, chacun peut avoir son opinion. D'autres demandent un retour à une république. Et en tout cas, tout le monde s'accorde pour dire qu'il faut retourner à une démocratie à l'iranienne, qui n'est pas une démocratie à l'occidentale, car la religion restera toujours en Iran quelque chose d'important. Depuis Zarathoustra, il y a toujours un contenu moral de la religion, mais en tout cas, que ce ne soit pas cela, et que les valeurs laïques l'emportent sur les valeurs religieuses qui les ont fait souffrir depuis 45 ans. Et d'ailleurs, on fait partie des gens qui le rendent aussi responsable.
Il y a un gouvernement en place, à quoi il sert ?
Le gouvernement en place, ben, il sert à maintenir ce que le guide suprême a élaboré, à maintenir la richesse des gens proches du pouvoir. Et voilà, le gouvernement actuel, le guide suprême vient de dire qu'il allait donner des allocations aux gens pour qu'ils puissent manger et tout. C'est un petit peu tard. Et puis, il fait très froid à Téhéran en ce moment. Hein. Donc, tout cela...
Un peu comme à Paris.
Je crois qu'il fait beaucoup plus froid. Mais donc, ils essaient de colmater les brèches, de... Mais c'est pour ça que tout est incertain. Il n'empêche que le peuple est en train de se bouger, et ce qu'on attend depuis très longtemps, et il n'a plus peur de la répression. Et ça, c'est tout à fait nouveau. Mais ils se font matraquer, ils se font... là, on me disait que dans au bazar de Téhéran, aujourd'hui, il y a eu du gaz lacrymogène pour que les manifestants s'en aillent. On n'est pas loin qu'il y ait des tirs directement sur la foule. Hein. Donc, progressivement, la peur, comme disent certains, est en train de changer de camp. Je le souhaite. Mais bon, je ne suis pas à Téhéran pour le constater moi-même.
Comment on fait pour s'informer sur la situation en Iran ?
Eh bien, il y a beaucoup de gens qui sont franco-iraniens, européens, américains, qui reçoivent beaucoup de leur famille, des vidéos, qui reçoivent beaucoup d'informations. Donc, moi, j'arrive à avoir tout cela parce que je suis branché aussi sur tous ces réseaux qui arrivent à dépasser les interdictions d'Internet parce que le pouvoir essaie de supprimer l'Internet dans certaines villes qui se soulèvent afin qu'elle n'ait plus de possibilité de communiquer ce qui se passe. Car ce gouvernement, il fait tout en dessous. C'est ça le problème. Il ne veut pas qu'on voit, mais il matraque quand même son peuple. On se demande simplement jusqu'à quand il continuera avec un concert international qui en parle, mais en ayant trop peur de perdre ses sources d'énergie. Parce que si l'Iran s'écroule, il y aura un après. Et qu'est-ce qui va se passer, puisque 60% de l'économie est dominée par ceux qui sont proches du régime ? Alors comment on va faire la jonction sans qu'il y ait des bains de sang, sans que ce soit trop difficile ? Vous voyez, c'est quand même assez complexe. Hein.
Donc finalement, l'information vient... Ce qu'on sait de l'Iran, ça vient principalement des Iraniens.
Ça vient des Iraniens.
Il y a quand même pas mal d'enjeux géopolitiques derrière cette situation.
Absolument. Et je pense que les Iraniens, je l'espère, ils se libéreront par eux-mêmes, ce qu'ils ont toujours fait, au bout du compte, en souffrant beaucoup, car c'est un peuple qui est un peuple du sacrifice aussi.
Merci Yves Beaumati, historien de l'Iran. D'ailleurs, vous avez un livre qui paraît en février, l'Iran face à ses défis, 1925-2025, 100 ans, un siècle d'histoire sous tension à paraître aux éditions Armand Collin. Si vous deviez résumer 100 ans en quelques lignes.
Eh bien, ce sont des tensions continuelles avec des renversements de pouvoir et d'idéologie, des choses qui, du jour au lendemain, qui étaient blanches, deviennent noires. Et c'est ce qu'on est en train de voir, c'est de la réaction noire par rapport à ce qui se passait, une réaction blanche par rapport à ce turban noir qui symbolise les mollahs.
L'Iran face à ses défis, c'est écrit avec Davoud Pahlavi, donc 1925-2025, un siècle d'histoire sous tension à paraître aux éditions Armand Collin. Dans la prochaine demi-heure, nous sommes avec Noémie et Francesca pour leur chronique. Nous sommes aussi avec le skipper suisse Mathis Bourgnon, mais d'abord, je vous propose d'écouter Baby Tricks et ça se passe sur Radio Campus Paris.
De cosas que tienes que aprender de la Trix. Cuida de los tuyos, es uno de los tips. No le des mente a lo que piensen de ti. No salgas a la calle, no, si no te gusta el fit. Lo más importante es never ever switch. Lo menos importante es preocuparse por un click. No más de una hora por día en IG. Que una chola como yo, cuida tu energy. Te va a hacer un manual para ser una Trix. Aunque el mundo sea frío, no te vuelvas así. No le reyes mucho pa' que piensen en ti. Trágatela toda pa' que piensen en ti. Pasa tiempo sola pa' subirte el chi. Pasa tiempo sola pa' subirte el chi. Y aunque siempre te haga buena onda, que malo que maté por ti. Soy leal, no se cuestiona. Que le pongo cuernos, eso se perdona. Se nota la presión si la bebé está en la zona. Hoy consigo lo que quiero sin abrir la boca. Lo hago todo easy, stepping siempre. Like esta mierda es normal. Y si fuese por la gente no sería millonaria. Normal. Hay un par de cosas que tienes que aprender de la Trix. Cuida de los tuyos, es uno de los tips. No le des mente a lo que piensen de ti. No salgas a la calle, no, si no te gusta el fit. Lo más importante es never ever switch. Lo menos importante es preocuparse por un click. No más de una hora por día en IG. Que una chola como yo, voy a tu energy. Te va a hacer un manual para ser una Trix. Aunque el mundo sea frío, no te vuelvas así. No le reyes mucho pa' que piensen en ti. Trágatela toda pa' que piensen en ti. Pasa el tiempo sola pa' subirte el chi. Pasa el tiempo sola pa' subirte el chi. Y aunque siempre te haga buena onda, ten un choque malo que mate por ti.
Eh Elle est chouette cette musique. Tips and Tricks de Baby Tricks. Vous écoutez la matinale de 19h et ça se passe sur Radio Campus Paris.
La matinale de 19h. Le magazine de société de Radio Campus Paris.
La première chronique de la matinale, c'est celle de Francesca. Comment ça va ?
Ça va
bonne
très
année,
bien.
Année, meilleurs vœux.
Bonne année, meilleurs vœux également.
Le meilleur.
Pour cette année 2026.
Ouais, et je crois que tu aimerais bien avoir moins froid.
Bah, j'aimerais avoir moins froid et j'ai une petite pensée pour nos agriculteurs, tu vois.
Ah, dis-moi tout. Ah, dites-nous tout, surtout.
Je dis tout. Alors, vous avez sans doute, comme moi en tout cas, vu la colère des agriculteurs ces dernières semaines. Une colère qui trouve ses sources dans plusieurs réalités dures. Et ce soir, je vais vous détailler un petit peu les faits pour comprendre ce qui se passe derrière tout ça. Premier fait, la crise sanitaire. Le 29 juin 2025, la dermatose nodulaire contagieuse des bovins est détectée pour la première fois en France en Savoie. Cette maladie virale provoque fièvre, nodules cutanés, chute de production laitière et il a fallu l'abattage total des troupeaux pour contenir la propagation. Depuis l'été 2025, plusieurs départements sont touchés. Pour certains éleveurs, ce sont des dizaines, parfois des centaines de vaches abattues, des pertes économiques majeures. Bien sûr, quand on aime ces animaux, c'est une rupture, un choc moral. Deuxième fait, la pression commerciale. La contestation contre l'accord Mercosur. Les agriculteurs dénoncent l'ouverture accrue aux importations des produits venus d'ailleurs. Ce n'est pas le ailleurs qui dérange, c'est surtout avec des normes sanitaires, sociales et environnementales bien inférieures à celles imposées en France. Résultat, une concurrence jugée déloyale, une pression supplémentaire sur des prix jugés trop bas. Et enfin, l'effondrement du nombre d'exploitations. En 10 ans, près de 100 000 exploitations agricoles ont disparu en France. Chaque année, plusieurs milliers de fermes mettent la clé sous la porte. Faute de rentabilité, faute de repreneurs, faute de perspectives économiques viables. La moitié des agriculteurs encore en activité partiront à la retraite d'ici 2030. Cette réalité explique donc la colère actuelle. Les agriculteurs travaillent, comme vous le savez, 7 jours sur 7, toute l'année, sans jours fériés, avec peu de congés et un métier de passion, mais aussi de sacrifice constant. Dans ce contexte, les discours, évidemment, ne suffisent plus. À ce sujet, une coopérative existe et que je suis depuis longtemps, c'est la marque C'est qui le patron ? Une coopérative composée de consommateurs, cette marque garantit une juste rémunération des agriculteurs et joue la transparence sur les prix. Ce modèle a déjà fait ses preuves. Fondé sur un simple principe, expliquer le prix et garantir la rémunération des producteurs. Après les vœux du Premier ministre, Sébastien Lecornu, Nicolas Chaban, le fondateur, a interpellé sur Instagram sur le fait qu'il manquait dans ses vœux justement un point essentiel, celui qu'il n'a pas évoqué, la rémunération des agriculteurs. Une audition est donc organisée au Sénat mercredi. Il était temps. L'objectif, assez clair, expliquer que la transparence est le seul levier fiable pour faire arriver la valeur jusqu'au producteur. Quand les coûts sont connus, quand les marges sont visibles, quand la destination de l'argent est claire, la chaîne alimentaire fonctionne autrement. Donc, défendre les agriculteurs, ce n'est pas défendre un secteur. Il faut les écouter, il faut les soutenir. C'est défendre la capacité de se nourrir demain.
Merci Francesca pour cette chronique.
Avec plaisir.
19h39 dans la matinale de 19h de Radio Campus Paris.
Le Zoom dans la matinale de 19h.
La Guadeloupe, la Marina de Saint-François. Nous sommes le 8 novembre 2025, 13 jours après son départ des Canaries. Il réussit l'exploit d'arriver premier, 30 ans jour pour jour après son père. Le skipper suisse Mathis Bourgnon est le vainqueur du Mini Transat 2025 et nous sommes avec lui ce soir pour en parler. Bonsoir Mathis Bourgnon.
Bonsoir tout le monde.
Déjà, bonne année 2026, meilleurs vœux.
Merci, vous
et
aussi.
Et puis, félicitations.
Ben oui, merci beaucoup.
Comment vous vous sentez après ces 2 mois, après cet exploit ?
Ah, on a eu le temps de digérer, ça va.
On a eu le temps. Vous parlez quoi, des repas de fin d'année ou Dieu l'a traversé ?
de beaucoup de choses, oui. Non, ça va. Et là, oui, l'euphorie, bien sûr, est retombée. Et non, ça va. Après, c'était un peu particulier parce que j'ai enchaîné. On en reparlera peut-être, mais j'ai enchaîné tout de suite après la victoire. Je suis reparti naviguer pour le retour. Donc, c'était quelque chose. Et là, on retrouve la routine.
Vous avez dormi très peu pendant ces 13 jours. Qu'est-ce que vous avez ressenti pendant ce trajet-là ?
Le sommeil, bah alors, qu'est-ce qu'on ressent ? C'est vrai que c'est un exercice un peu particulier.
C'est hallucinatoire, en fait.
C'est ça, voilà, pour ceux qui ne savent pas forcément, en voile, bah, la compétition continue la nuit, hein. On ne s'arrête pas. Et donc, c'est beaucoup une gestion du sommeil, d'essayer, bah, quand on dort, forcément, le bateau va un peu moins vite. Et donc, il y a tout un jeu d'essayer de moins dormir. Et on pousse la limite assez loin jusqu'à avoir des hallucinations. Donc voilà, alors il y en a qui ont différentes formes d'hallucinations. Moi, je sais que je vois parfois des petites choses dans l'eau, des petits objets, des petits...
C'est ce que j'avais entendu, ouais, d'autres skippers.
C'est ça, on voit des petits trucs. Parfois, ça peut être des hallucinations auditives, ça, j'ai pas trop. Mais généralement, ça donne un peu un indicateur de « Oh là, attention, il faut aller dormir, ça commence à être trop ». Mais voilà, oui, on pousse les limites dans le rouge, ouais, c'est sûr.
Quand on est en train de survoler l'océan, comme on peut avoir cette sensation-là, qu'est-ce qu'on ressent ?
Oula, bon, c'est un sujet vaste.
On ressent. 4 heures, non, c'est pas vrai.
Ah oui, oui, bah là, tout ce qui est sensation, bon, il y a plein d'autres sports qui sont comme ça, mais c'est vrai que. Ouais, les sensations, c'est bah, ouais, y a tellement de choses. En fait, il faut vraiment se remettre dans le truc qu'on est dans les éléments et on joue avec. Donc, les vagues, le vent, le bateau, tous les bruits du bateau, tous les bruits du vent. C'est vraiment, on a les sens qui sont démultipliés le plus possible pour essayer de tout ressentir. On va même jusqu'à la température de l'air, toutes ces choses-là, c'est vraiment tout un... On essaie de faire corps avec son environnement, quoi. Je pense que les montagnards doivent être un peu aussi dans cette démarche.
Vous dites ça parce que vous êtes suisse ?
Non, j'ai dit ça parce que je connais pas du tout le domaine de la montagne, mais qu'on m'a raconté que c'était un peu similaire. Et c'est, bah ouais, et je pense que c'est ce qui nous pousse aussi à retourner, c'est vraiment qu'on a toutes les sensations poussées au curseur. Au maximum, paradoxalement, on les contrôle pour essayer d'être le plus neutre émotionnellement possible et de rester dans... C'est marrant, on va chercher un peu l'incontrôle et nous, on essaie de garder le contrôle. Et donc, voilà, toutes ces sensations, on a aussi beaucoup cette histoire des émotions. Il y a tout qui est... Quand il se passe un petit truc, c'est très grave, on est au bout de sa vie. Et puis, quand on voit un bel oiseau voler à côté de nous, on est l'homme le plus heureux du monde, alors que c'est pas grand-chose. Donc voilà, c'est tout ça qui nous exalte.
C'est énormément d'intensité que d'être sur ce voilier.
Oui, puis c'est le manque de sommeil qui nous apporte ça aussi, je pense. On est à fleur de peau. On se met vraiment dans des états, en tout cas en course, en solitaire comme ça. On est vite à fleur de peau. Et après, c'est l'expérience qui va parler pour essayer de... Moi, j'ai bien vu sur cette transat, j'ai été beaucoup plus stable et neutre suisse sur cette émotionnellement sur cette course beaucoup moins dans l'excitation et dans le dramaturge, donc voilà, c'était aussi une démarche que j'avais envie d'approcher pour essayer de performer, puis j'ai l'impression que ça a fonctionné.
Pendant la course, vous étiez derrière Benoît Marie en deuxième position. Comment vous avez vécu le fait de passer premier à la fin, juste avant l'arrivée?
Ah ouais, bah tu me donnes que des questions qui durent 3 heures s'il faut que je fasse le tour. Il y a des dissertations à faire là.
C'est génial, je crois que c'est la première fois qu'on me dit ça.
Ah, y a tellement de choses à dire, je sais pas combien de minutes j'ai, mais...
Prenez votre temps.
Non, mais faut comprendre que c'est... Bah non, mais c'est hyper intense. En fait, nous, il y a ce projet qui existe depuis plusieurs années. Donc, il y a tout qui se joue. En plus, là, la mini transat, pour ceux qui connaissent.
Mathis Bougnon, nous l'avons perdu. C'est les aléas du WhatsApp. Est-ce que ça capte ? Est-ce qu'on l'entend ? Mathis, est-ce que vous êtes avec nous ? Ah non, ça a complètement raccroché. Donc Mathis Bourgnon qui a traversé les Canaries jusqu'à la Guadeloupe, c'était pour le Mini Transat 2025 et il a accompli 30 ans jour pour jour après son père, cet exploit. Yvon Lyon aussi, qui a accompli cet exploit. Ils travaillent ensemble entre père et fils. Je vous invite à aller voir comment justement il avance dans cette étape-là aussi en tant que skipper. Je vous rappelle qu'il a 28 ans, qu'il est suisse, donc il n'est pas forcément proche de l'Atlantique, il n'est pas forcément proche de la mer, et ça s'est donné de père en fils, cette envie d'accomplir cet exploit-là. Est-ce que Mathis, vous êtes avec nous? Non, pas encore. Mathis n'est pas encore avec nous, mais tout ça pour dire que effectivement, ce qu'il a ressenti, c'est vraiment énormément de fatigue. Il n'a pas beaucoup dormi pendant ces 13 jours. C'était ces 13 jours. Mathis, est-ce que vous êtes...
Allô.
Mathis, nous vous y avions perdu. Est-ce que vous avez fait exprès de raccrocher par rapport à ma question?
Non, je suis tout prêt à répondre.
Je la repose parce que là, il y a eu un petit temps. Donc, vous étiez derrière Benoît-Marie... principalement en deuxième position. Comment est-ce que vous avez vécu le fait de passer premier?
C'est très intense. Faut comprendre que c'est un projet qui se prépare depuis longtemps. C'est beaucoup d'investissement, beaucoup de temps. Et puis, c'est tout sur une course, quoi. C'est vraiment un peu... Il y a la première étape qui était annulée en plus. Donc, ça se jouait tout sur la deuxième étape. Et Benoît, il était archi favori. Faut savoir qu'il a gagné toutes les courses de la saison. Il surdominait vraiment avec un bateau de dernière génération avec des foils pour ceux qui connaissent. Et donc c'était un peu c'était plutôt la question de qui allait faire deuxième. Et pendant la course, en plus avec Benoît, on est très bons amis, on a partagé sur la météo au départ. Enfin, il y a vraiment une cohésion dans cette classe qui est assez exceptionnelle. Et donc j'avais aucune animosité de le doubler, quoi. C'était vraiment juste faire une belle course ensemble.
On est copains sur ce genre de course ?
Oui, on est copains parce que en fait c'est une classe très amateur. Il y a très peu de professionnels et enfin il y a personne qui gagne vraiment sa vie avec ça. Donc on est tous dans la galère et on s'entraide tous. Ça c'est quelque chose qui est très propre au mini, qui se perd un peu avec les classes professionnelles que vous connaissez plus avec le Vendée Globe et les Routes du Rhum tout ça. Mais on est amis et même avec Alexandre qui est arrivé troisième aussi. Et donc, Benoît, en fait, moi, pendant toute la course, il faut savoir qu'on n'a pas de contact avec la Terre. On n'a pas Internet, on n'a rien, on a très peu d'informations. Et on a simplement un classement une fois par jour qui nous donne la distance au but. Par exemple, il y a une radio BLU à l'ancienne, comme il y a 60 ans, qui nous dit, Benoît, il est à 100 000 de l'arrivée. Mathis, il est à 150 000 de l'arrivée. Mais je ne sais pas s'il est plus au sud ou au nord. Donc moi je découvre en fait ce qui se passe, c'est qu'on est assez proche toute la course, mais je ne m'en rends pas bien compte. Et la dernière nuit, en fait le début de la dernière nuit, Benoît il casse son bateau dans une sale vague. À l'arrivée il y avait vraiment des sales vagues, et il casse ce qu'on appelle le tangon, qui permet d'avoir des grandes voiles d'avant, les grands spies, les grandes bulles blanches, ça doit vous dire quelque chose.
Et lui, du coup, il peut plus... vidéo, donc c'est vrai que c'est assez impressionnant, ouais.
Voilà, il casse vraiment fort son bateau, il prend l'eau et tout, c'est vraiment la galère. Ouais. Et donc, il est ralenti, et moi, je continue d'aller deux fois plus vite que lui, et incroyable improbabilité, on se croise à quelques centaines de mètres.
Waouh.
Et là, on a une petite radio, on est de nuit, hein, donc moi, je vois juste un feu de mât, on a des feux, vous savez, les feux de rouge et de vert en haut du mât. Et donc, je vois ça, mais je ne me doute pas que c'est lui, parce que dans ma tête, il est devant, et puis voilà, je vais faire deuxième. Moi, je n'étais pas du tout favori. C'était déjà extrêmement super d'être deuxième. Donc, je ne m'étais même pas projeté, quoi. Et Benoît me croise. Et là, on a une petite radio VHF à bord, quand même, qui nous permet de communiquer avec les bateaux 10 km autour de nous. Et il m'appelle et il me dit Mathis, bravo, tu vas gagner la Mini Transat. Alors là, moi, je ne comprends pas. Je dis non, ce n'est pas fini. Il restait 100 km. Donc, il restait 4-5 heures de un peu plus.
Mathis, est-ce que vous êtes encore avec nous? Décidément, il y a une aventure pour arriver à le joindre. En tout cas, Mathis Bourgnon qui nous raconte ses aventures. Oui, Mathis. Mathis, est-ce que vous m'entendez? Mathis Bourgnon qui a traversé l'Atlantique des Canaries à la Guadeloupe et qui nous raconte ses aventures de manière générale. Ça a été un exploit. Il est arrivé premier du Mini Transat 2025. Mathis, merci d'avoir été avec nous. On va avoir du mal à le rejoindre. Mais Mathis Bourgnon, en tout cas, Vainqueur du mini transat, j'y arrive pas. Une traversée en voilier des Canaries à la Guadeloupe, c'était fin octobre, début novembre. Encore de beaux exploits à venir pour vous. Bon vent et puis excellente année Mathis. Noémie arrive avec sa chronique du soir après les bateaux de pépites et ça se passe sur Radio Campus Paris.
Je t'en rêvais pour ne pas gagner. Je t'en pleurais pour t'ignorer. J'ai vu l'amour dans ce détour. Je ne l'ai pas pris, pas le permis. J'ai voulu voir, j'ai voulu croire ce qu'il n'y avait pas, ce qu'on ne pouvait pas avoir.
Avec les pépites, avec les bateaux. Je vous ai laissé le petit oiseau là qui passe bien. C'était sur Radio Campus Paris, vous écoutez la matinale de 19h.
La matinale de 19h.
19h53, la dernière chronique de la matinale de 19h. Pour ce soir, c'est avec Noémie. Salut Noémie.
Hello.
Bonne année, meilleurs vœux.
Et bonne année à toi aussi Fabrice.
Qu'est-ce qu'on te souhaite ?
Alors, on me souhaite plein de choses. J'espère des choses assez riches en chronique et en écriture. Alors, ce soir, je vais vous parler un peu famille. La
vaste
famille.
Vaste sujet.
Et oui, la MIF, la Famax, la Smala, des anciens, anciennes à nos comparses, les petits frères, les grandes sœurs, les cousins et les unes. Enfin, il y a mille façons d'appeler ce drôle de groupe social lié qui nous lie par le sang. Et en effet, on est quelques jours après les fêtes de fin d'année. Mais depuis mi-décembre, certains sont rentrés chez eux tout fiers et d'autres voulaient plus ou moins retrouver leur famille parce que parfois c'est froid, c'est dur, c'est fâché ou c'est facho. Fait étrange, si on retourne quelques semaines avant les fêtes, parmi les romans sélectionnés pour des prix littéraires français, comme le Goncourt pour n'en citer qu'un, plein d'écrivains et écrivaines se sont aussi mis à nous parler famille. Un thème qu'on n'a jamais trop regardé, qui est pourtant à portée de nos mains et si chargé qu'on le trimballe en permanence dans le dos, dans le cœur et dans la tête. Et cette année, alors, il a fallu peut-être rouvrir les archives
arrive, zioter les albums photos, les cartes, les géographies, pour toquer à la porte de l'enfance et de l'intime. On est alors retourné sur les traces d'un grand-père silencieux, d'une grand-mère un peu space, ou d'un père devenu un parfait inconnu à nous-mêmes, ou d'un frère complice, ou encore d'une tante à l'autre bout du monde qu'on n'aurait jamais vue. Mais alors, pourquoi un tel flashback, un tel retour? Pourquoi prendre et tendre la main vers nos anciens et anciennes? Sans doute car, lorsqu'on perd nos repères, on part peut-être de soi. Une famille, ça se dépoussière, ça pousse à retourner dans le pays perdu pour comprendre la langue, le pansement, les non-dits. Mais attention, trigger warning ici, tout ça est bien beau. Mais parler famille pose aussi une grosse question. Écrire leurs portraits, les rides et les visages, est-ce que ça n'adoucirait pas, voire même est-ce que ça ne sacraliserait pas nos anciens et nos anciennes où dorment souvent et malheureusement racisme, classisme, sexisme et autres concepts tout pourris. On sait que les grands-parents nés en France au XXe siècle n'étaient malheureusement pas tous des résistants, alors c'est dur de garder à la fois la dimension critique et cette bonne distance quand l'affect revient à la charge. Alors la famille, certains et certaines préfèrent la choisir pour qu'elle se construise dans les rires et le respect, l'amitié, plutôt qu'elle ne traumatise ou qu'elle ne s'impose comme un bloc de béton fascisé. Au-delà du sang, les amis donnent beaucoup. Et pour 2026, promis, je me promets de les appeler. Malgré tout, ça m'a quand même donné envie de me prêter à ce petit jeu. Si moi aussi je devais dresser ma propre géographie famille, j'accumulerais les souvenirs pour recoller des puzzles et peut-être décoller les disparus de l'oubli de ma petite banlieue Est à Paris ou de mon Finistère à l'Arménie. Il faudra fouiller dans un peu tous les recoins, quelque part entre les cassettes de Dalida, des berceuses, la pluie, de la misandrie aussi, les canapés assises dedans, le son tintamarre de la télévision, le love language de la bouffe, l'automne, l'enfance, les rires volume de sang, les cuisines, les sommeils à jamais gravés dans les voitures, ou les villages, la tendresse pendant la crise d'ado, les au revoir qui piquent parfois un peu les yeux, ou les câlins prolongés qui en disent long, les plaies refermées et le fameux « t'inquiète, ça va aller ». Enfin, la liste pourrait durer bien après cette chronique, je crois, mais s'il fallait la finir... Je crois qu'il reste dans tous ces souvenirs un présupposé, sans doute commun dans toutes nos histoires de famille, famille imposée comme famille choisie, hein, c'est d'avoir connu les récits, d'être proche d'elles et eux, des sons, des odeurs du passé ou des clopes au café actuellement, d'avoir eu la chance d'entendre les concernés nous parler de leurs histoires avant de nous laisser soit des berceuses dans la tête ou alors des anecdotes de copines ma foi bien farfelues autour d'un plat de crêpes beurrées, de fou rire ou de mezzé.
Et ça tombe bien parce qu'en vrai la famille choisie, c'est là où on se tape, je pense, le plus de bons délires, tu vois, juste, ouais. Tu vois, la crêpe qui va bien, le café qui va bien, et puis deux, trois conneries à se raconter.
Carrément.
Ah, je suis un peu timide choisi, j'avoue.
Moi aussi.
On n'est pas tout seul. C'est pas mal. Bon, bah, merci Noémie pour cette chouette chronique qui va me faire méditer perso. C'est la fin de la matinale de 19h, mais elle revient demain à la même heure. À la technique ce soir, David et Julie qui ont assuré comme des chefs, parce que une fois de plus, si vous n'avez pas écouté cette matinale, il fallait l'écouter, et on vous dira pas pourquoi. Aux chroniques Francesca et Noémie, à l'interview moi-même et à la coordination au Déjeune. Merci à vous tous. Le lobby, l'émission dans quelques minutes, 3 minutes exactement. Bonne soirée, bonne semaine et très bonne année sur Radio Campus Paris.